BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros, les cryptos. Bienvenue à tous. Chaque vendredi, et nos NFT à nous, nos talents non fongibles, ils sont là et répondent à l'appel de BFM Business une nouvelle fois. Owen Simonin, il est le fondateur de la chaîne YouTube Hacheur avec un H au début. Il est à la tête de Meria. Bienvenue Owen. Et Stanislas Barthélémy aussi qui nous accompagne, le président désormais de l'ADAN qui nous rejoint également ici. Bienvenue Stanislas. Ravi messieurs de vous retrouver. On va parcourir l'ensemble des grandes actus de la semaine et des grandes questions qu'aura posé cette nouvelle semaine dans un instant. Mais d'abord, Xavier Fenot est avec nous pour Interactive Trading. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Fin de semaine compliquée quand même sur Bitcoin. On est à 105 000. Est-ce qu'on irait venir mettre en danger les 100 000 là? On a bien reculé quand même depuis les plus hauts. Comment est-ce que d'un point de vue technique, vous voyez la suite?
Bah, c'est vrai, vous avez raison. Semaine quand même compliquée sur le marché. Le Bitcoin a perdu un peu moins de 10% sur la semaine. D'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a deux semaines ici, on parlait qu'on avait quand même de grandes chances de faire un nouveau record historique. Ça a été fait quelques jours plus tard. Et en ajoutant finalement que le plus important, c'était surtout, une fois qu'on les aura fait, de les tenir au moins quelques jours. Parce que la dernière fois, au mois d'août, Bitcoin avait perdu 13% juste après avoir fait un nouveau record historique. Et bis repetita. Alors aujourd'hui, on a un contexte toujours tendu, hein, shutdown aux États-Unis, toujours conflit commercial entre États-Unis et Chine, conflit géopolitique. On a aussi risque bancaire aux États-Unis cette semaine. Et puis, on a des marchés américains qui sont tendus avec un VIX, hein, le fameux indice de la peur qui remonte depuis quelques jours maintenant. Et toujours ce mimétisme marché traditionnel, marché crypto. Alors, on a un Bitcoin qui revient finalement sur ses niveaux de juillet, après avoir fait donc plusieurs records historiques, hein, je rappelle, juillet, août, et donc il y a 10 jours, à plus de 125 000 dollars. Alors, est-ce que cette baisse sous les 110 000 dollars est grave pour la tendance? Alors, pas pour le moment, parce que même si on a enfoncé un repère intermédiaire à 108 000 dollars, on peut le récupérer dans le week-end. On l'a déjà vu finalement avec la peur sur le marché il y a tout juste une semaine, hein, dans la nuit de vendredi à samedi, 20 milliards de positions liquidées dans le week-end. Bitcoin a tenu cette zone et a tenté de relancer ensuite. La grosse zone clé, c'est surtout pour moi les 98 000, 100 000 dollars. Alors, c'est un repère technique à moyen terme et psychologique aussi. Alors, c'est vrai, quand on voit rouge, qu'on revient quand même fort sur des zones clés, on a le stress, la peur qui remonte. Et si on regarde depuis cet été, donc à court terme, on est dans un range. Ça veut dire qu'on a des oscillations horizontales qui se poursuivent avec certes parfois des mouvements violents, positifs ou négatifs, des excès à la hausse comme à la baisse. Et c'est pour ça que je le disais aussi il y a deux semaines ici, que je privilégie plutôt les achats sur repli et pas sur les précédents plus hauts. Donc oui, on a un stress depuis quelques jours, on a une première alerte technique en cours à confirmer donc dans le week-end autour des 108 000 dollars. Ça, c'est la zone vraiment à court terme à récupérer. Et puis tendance long terme, haussière conservée tant qu'on tient les 100 000 dollars. Et forte volatilité, ça veut dire calme et prise de décision légère parce que le marché est nerveux. Et la pire des choses, c'est de prendre des décisions un jour dans un sens, dans l'autre le lendemain, alors qu'au final, on est toujours dans la même configuration depuis cet été.
Xavier Fenot, Limpide, Interactive Trading, merci beaucoup Xavier de nous avoir accompagnés. La semaine a été riche, on tirera les leçons d'ailleurs de cette phase baissière cette semaine, bien sûr. Et on se demandera aussi si l'intelligence artificielle qui continue d'attirer énormément de capitaux, en prend aux cryptos finalement. On posera cette question à nos experts dans un instant. Vous verrez aussi que dans les cryptos, certains au contraire tirent parti de l'IA. Vous découvrirez qui. La tokenisation aussi. Pourquoi BlackRock s'engage autant? Une nouvelle fois, cette semaine, le patron de BlackRock a expliqué que la tokenisation des actions allait arriver, que ce serait un véritable tsunami. Et puis Eric Trump, le fils de Donald Trump, lui veut tokeniser les Trump Towers. Oui. Quant à la volatilité des cryptos, justement, ce sera aussi au cœur des pros des cryptos. Cette phase que l'on est en train de vivre permet de voir qui sont les maillons forts et les maillons faibles de l'écosystème. En ce moment, une forme de stress test intéressant pour préparer la suite aussi. C'est les pros des cryptos chaque vendredi, également au podcast et replay. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec donc cette semaine, Owen Simonin, en forme Owen.
Très en forme.
Ouais, vous avez passé la semaine à Paris ou vous étiez chez vous en Moselle?
Pas du tout, en Moselle cette semaine.
En Moselle cette semaine. Stanislas, bonjour Stanislas. Parisien hein, Stanislas, président de la DAN.
Parisien, oui.
Ouais, mais bon, la DAN, ça rayonne et quelque part, même depuis Paris, vous parvenez à vous faire connaître et faire connaître.
En France et en Europe.
Point de vue partout. Et oui, c'est important. En bourse, c'est important aussi de savoir se baigner habillé. Non, je dis ça parce qu'il y a un adage boursier qui dit c'est quand les marchés se retirent, quand la mer se retire, que les marchés baissent, qu'on voit qui se baignait tout nu. C'est peut-être ce qu'on est en train d'observer et de voir cette semaine, à savoir les cours des cryptos qui souffrent énormément. Ça permet de voir qui se baignait tout nu, de voir quels sont dans l'écosystème, quelque part en ce moment, les maillons forts et les maillons faibles. Est-ce que là-dessus, on arrive à avoir de la visibilité, un peu plus en tout cas, Owen?
Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des fragilités encore dans le monde des cryptos et il y a eu, bien que le marché soit, entre guillemets, il y a eu une baisse, mais qui est raisonnable par rapport à certaines baisses que Bitcoin a déjà enregistrées dans le passé, c'est en termes de liquidation que c'est un record absolu. 19 milliards, c'est deux fois plus que pendant la chute d'FTX, quatre fois plus qu'à l'entrée en bear market en 2022, et ça vient de plusieurs raisons. La première raison, c'est l'étincelle avec les annonces sur les tarifs en Chine de Donald Trump. Même si ce n'est qu'une étincelle, parce que pour le coup, les marchés américains étaient encore ouverts quelques minutes et ont pu encaisser une petite baisse. L'exutoire, ça a été les crypto-monnaies qui, elles, sont ouvertes 24 sur 24 et qui ont dévissé pendant le week-end. Mais surtout, une cascade de liquidation, des order books qui étaient particulièrement vides. Donc, il y a certaines crypto-monnaies qui ont été vendues sur des ordres au marché excessivement rapidement et qui ont touché les quelques centimes, voire des dixièmes de centimes pour certaines crypto-monnaies qui sont cotées à plusieurs euros. Des market makers qui se sont retirés pour éviter la volatilité, mais qui du coup ont laissé des marchés sans volatilité avec très peu d'acheteurs et énormément de vendeurs. Et des plateformes qui, en plus de ça, ont eu une surcharge sur un très court instant d'utilisateurs. Des très grosses plateformes, les leaders comme Binance, qui ne permettaient plus d'exécuter un ordre au marché. Les gens se tournaient par exemple vers la blockchain qui elle-même d'un coup avait une surcharge. La blockchain sait gérer ses surcharges, mais du coup, c'est à ceux qui payent le plus de frais qui voient leurs transactions exécutées en premier. Donc, il fallait payer plusieurs centaines d'euros pour exécuter des transactions. Et comme tout s'est fait sur un laps de temps très court, il y a eu cette panique qui a été amplifiée et qui, en plus de tout ça, a vu des cycles de liquidation, puisque les plateformes, voyant les collatéraux des utilisateurs qui utilisent des leviers insuffisants ou fondre à vue d'œil, ont saisi, ont liquidé et ont fait baisser, ont accéléré encore plus, ce qui pose certaines questions d'éthique sur des plateformes non régulées qui auraient pu abuser ou tirer profit de certaines liquidations. Ça pose énormément de questions, tout sur un très court laps de temps, et on est encore en train aujourd'hui d'analyser et d'avoir certains éléments sur ce qui s'est passé dans cette nuit.
On commence à avoir un peu d'historique quand même sur les cryptos aussi, intéressant. Est-ce qu'on se dit que l'écosystème et que les process progressent ou on a toujours les mêmes risques quand il y a une forme de flash crack comme celui qu'on vient de vivre Stanislas.
Les participants du marché sont assez différents. Il y a des acteurs régulés qui même ne proposent pas de faire des perps, c'est-à-dire de prendre des paris, on va dire leveragés sur des longs shorts, et c'est ça qui est en défaut aujourd'hui. C'est comment ces systèmes fonctionnent, et quand il n'y a plus de liquidité, on voit qu'en réalité, ils ne fonctionnent pas très bien et que c'est un jeu à somme nulle. Donc, il y a une tendance, moi, qui me déplaît un peu dans cet écosystème, c'est il y a des gens qui mettent de l'argent dans ces protocoles, qui prennent des leviers en espérant faire du farming, désolé pour l'anglicisme, c'est-à-dire récupérer des jetons. Sauf qu'on envoie parfois le retail sur des sujets qui sont un peu dangereux. Et on le voit faire des leviers sur des crypto-monnaies qui n'ont pas de liquidité. C'est d'autant plus dangereux que beaucoup d'ordres de vente, moins 60, 70% pendant quelques secondes, ça suffit à liquider. Et on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent.
D'ailleurs,
des plateformes qui sont d'ailleurs pas très centralisées, pas très régulées.
Et le gros de la liquidation venait d'une plateforme qui s'appelle Hyperliquid, qui est totalement décentralisée, totalement automatisée, et qui a réalisé l'un des plus gros airdrops, l'une des plus grosses distributions de crypto-monnaies. Et donc, naturellement, il y a des utilisateurs qui utilisent cette plateforme en espérant profiter de la prochaine tranche de distribution. Donc, c'est l'une des tendances, ce qu'on appelle les perpetual DEX, échanges décentralisés qui permettent de faire des paris à la hausse ou à la baisse avec des effets de levier, qui sont très clairement en tendance, notamment depuis que Aster, le concurrent dessiné par Binance, totalement décentralisé et soutenu par Binance, a vu le jour.
Mais est-ce que les ETF, maintenant il y a des ETF quand même dans le marché, est-ce que les ETF ont un peu servi de flotteur quand même ou pas tant que ça ?
Flotteur, très compliqué quand les marchés sont fermés, c'est un ETF pour le coup. Mais en tout cas, on l'a vu, c'est un indicateur et on voit qu'il y a un demi-milliard de volumes qui sont sortis des ETF dans les heures ou dans les jours qui ont suivi, notamment le 14 ou le 15 octobre.
L'ETF, c'est un peu le thermomètre. C'est dès qu'il y a une petite secousse ou une incertitude sur les marchés, on a quelques investisseurs qui reprennent leurs billes. Et donc, c'est plutôt la conséquence que la cause de voir ce qu'on appelle les outflows, c'est-à-dire des sorties de valorisation sur les ETF. Mécaniquement, si dans une semaine ça se passe bien, ceux qui sont sortis, on les voit revenir. Ce qui fait que c'est pas tant un indicateur qu'une conséquence.
Effectivement, il y a des cryptos qui vous ont surpris quand même par leur comportement. On parle beaucoup, à chaque fois de Bitcoin et d'Ether, mais il y en a d'autres qui vous ont surpris.
Il y a des altcoins qui ont affiché moins 75% de leur valeur sur quelques minutes.
Ça rappelle le bon vieux temps où ça variait fort.
Ça rappelle pas grand-chose de bon, si ce n'est le vieux temps. Il y a des jetons comme Atom qui ont fait beaucoup de bruit puisque l'order book, même sur les plus grosses plateformes, était complètement vide. Donc un jeton qui coûtait 4 ou 5 euros pièce, on pouvait en avoir 1000 pour 1 euro. Donc il y a quelques personnes qui étaient dans l'order book, qui avaient un ordre limite et qui ont dit, moi, pour 0,1 centime, je suis prêt à en acheter beaucoup, et qui ont eu de la chance. Et il y a beaucoup de personnes qui ont simplement vendu sans regarder le prix et qui ont obtenu une poussière contre leur stock. Il y a eu des crypto-monnaies qui ont particulièrement été affectées par le manque de liquidité.
Non, mais il y a plein de débats parallèles suite à, cet événement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que certains ont été à défaut sur la manière dont ils calculent le prix pour assurer, on va dire, la pertinence de cette plateforme entre les longs et les shorts. Et quand on calcule mal le prix, on cause des liquidations. Donc encore de la maturité à gagner pour certains acteurs.
Et c'était l'un des gros points, un stablecoin qui était sur Binance, l'USDE, et qui servait de collatéral, donc de caution pour pouvoir parier à la hausse ou parier à la baisse, qui a perdu son PEG, il a perdu sa valeur, mais uniquement sur Binance. Et comme Binance sont très gros, ils regardent leur prix à eux pour prendre le prix moyen du marché. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des liquidations. Pour le coup, ils ont déployé 300 millions de dollars pour rembourser tout le monde en très peu de temps, parce qu'ils ont assumé totalement l'erreur. Mais du coup, ça pose des questions sur, comme c'est un nouveau marché, où sont les références? On doit se baser sur quoi? Les systèmes de redondance sont définis comment? Et il faut qu'il y ait de la casse et qu'il y ait ce genre d'événement afin qu'il y ait de la régulation, des obligations, et que certains viennent mettre un cadre obligatoire à respecter.
Anatomie d'une chute, on pourrait résumer comme ça vos propos, vos échanges, vos analyses sur ce qui se passe en ce moment sur les cryptos. C'était surtout violent la semaine dernière, mais on voit qu'aujourd'hui, Bitcoin vient quand même menacer les 100 000 dollars. Anatomie d'une chute. Mais on va aussi parler d'architecture et de tokenisation, parce que le patron de BlackRock en met une couche sur la tokenisation. Il a encore expliqué cette semaine à quel point la tokenisation allait tout changer. Et vraiment, il est en pointe, le patron de BlackRock. Pourquoi lui, plus que les autres géants de la finance américaine?
Parce qu'il est en avance. Parce que c'est pas seulement un actif pour lui, c'est bel et bien un support. On le sait, le Nasdaq se positionne et essaye de faire en sorte qu'il y ait des compensations et des règlements d'actions tokenisées. On sait que ça va permettre des échanges 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une question de volume. À partir du moment où, au milieu de la nuit, on peut réaliser son prêt lombard, où on peut mettre en caution des actifs et faire des loops, leverager ce que l'on a déjà et ses actifs pour pouvoir tout simplement optimiser encore l'efficience de son capital, c'est quelque chose qui ne peut qu'intéresser l'un des plus gros fonds d'investissement au monde.
Oui. Ça, c'est la promesse pour les investisseurs. Après, la promesse pour un asset manager de type BlackRock et d'autres, c'est d'avoir une technologie qui peut aussi baisser un peu les coûts de création d'actifs, d'émission de ces actifs, même des coûts de compliance. Donc c'est un peu, améliorer l'accessibilité des actifs.
La démocratisation quand même aussi.
Exactement.
Avec des marchés actions qui sont au plus haut, des valeurs, des cours qui sont de moins en moins accessibles au très grand public.
Oui, mais même demain, si on tokenise du private equity, de se dire qu'on peut le rendre accessible à du retail. Alors avec toutes les mises en garde qu'il faut, mais techniquement, il y a cette possibilité-là. Donc lui, il voit ça comme une nouvelle infrastructure et ça rejoint les propos du patron de la SEC de dire on a une nouvelle infrastructure, c'est équivalent à l'apport d'Internet, mais pour le monde financier, autant y aller. Et d'ailleurs, ils sont prêts même à faire des exemptions. Donc de permettre l'innovation, de voir ce qu'il faut, de séparer le bon grain de livret et derrière de traduire ça dans la réglementation. Et c'est parfois un peu cette souplesse qu'on regrette en Europe.
Ah oui. La tokenisation des marchés financiers, la tokenisation de l'immobilier. Eric Trump, donc le fiston de Donald Trump, dit que oui, il y a un vrai projet, un projet de tokenisation des Trump Towers. Ah, c'est-à-dire qu'on pourra faire du Monopoly avec du vrai immobilier, c'est ça la tokenisation?
En quelque sorte, c'est-à-dire d'acheter des parts même pour des petits montants. Et l'idée, c'est plutôt que d'avoir accès à un bien, une catégorie de biens, de faire sa propre diversification. Je prends un millième à tel endroit, un millième d'actifs d'immobilier professionnel, d'une clinique à l'autre bout du monde. Ça, c'est la promesse. Après, d'un point de vue aujourd'hui réglementaire et même effectif, on n'a pas tellement de cas d'usage qui se sont répandus. Quand on dit qu'on peut tout tokeniser et que ça apporte, que ce soit de l'immobilier, des fonds de dette ou des fonds monétaires, on voit très bien où il faut aller. Maintenant, il nous faut encore le chemin, la demande et même l'actif de règlement. Mais ou les sujets autour des stablecoins. Donc il y a tout un écosystème qui doit se mettre en œuvre.
C'est là qu'on voit que la tokenisation est encore une option pour le futur. L'IA, elle, est déjà une certitude. L'IA, au point qu'on se demande si l'IA n'a pas pris aux cryptos un peu de lumière et attiré des capitaux au détriment des cryptos depuis quelques années, Owen.
C'est certain. Quand il y a eu qu'il y avait la mode blockchain, qu'il y a eu la mode IA, tout de suite, les VC ont changé leur fusil d'épaule. En France, on est passé de la blockchain nation à l'IA nation. Et puis, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de discours politiques qui sont orientés sur du plus court terme, sur des mandats plus courts. Et même au niveau des investisseurs, la blockchain, c'est une surcouche technologique qui va affecter beaucoup de domaines, mais surtout des domaines financiers, des domaines de règlement, des domaines de transactionnel, même si ça va au-delà, évidemment, alors que l'intelligence artificielle a eu un bouleversement quotidien de tous les domaines beaucoup plus rapide qui est constaté. Donc évidemment, on sent une tendance, et bien que ça n'enlève pas le potentiel de la blockchain, je pense même, pour être honnête, que la blockchain va donner de la valeur à la blockchain, que l'IA va donner de la valeur à la blockchain et va permettre d'authentifier d'un point de vue numérique ce qui a été créé, ce qui va devenir compliqué dans les années à venir, mais sur du très court terme.
Les deepfakes, par exemple, pas ce deepfake, la blockchain.
Deepfake, la certification de qui a aimé un contenu, l'authentification, un mot de passe ne suffira plus, on ira plus loin que ça. Donc, je suis certain que l'un n'enlève rien à l'autre, mais à l'instant T, ça enlève de l'intérêt. Ça, c'est vrai. C'est dans la substance que ça ne modifie rien, mais ça vient capter l'intérêt des investisseurs et donc de la liquidité sur du court terme.
Des cas d'usage qui se développent, je pense au ce qu'on appelle le paiement dans le monde agentique, c'est-à-dire d'avoir une monnaie native de l'Internet que sont stablecoins et certaines cryptos, et d'avoir des agents transactionnels qui pourraient utiliser ça, de même, cette valeur.
Ah oui, j'ai vu passer cette hypothèse que quand l'IA fera elle-même ses propres transactions d'une IA à une autre, ça pourrait se faire par des valeurs, par des monnaies comme les stablecoins, les monnaies numériques.
Une DAO pourrait très bien payer des êtres humains pour rendre un service, et elle sera capable d'en juger grâce à une IA le rendu. Et c'est effrayant, hein. Cette direction-là, on pourrait en parler un moment, parce que ça, c'est tout autant intéressant et follement excitant que terrifiant sur le potentiel de certains algorithmes qui auraient une capacité de paiement et de réflexion.
De recourir. Demain, je dois faire un voyage, je demande à mon chatbot de dire « réserve-moi l'hôtel le mieux noté sur 3 jours et tel restaurant ». Il fait les paiements et derrière, je profite de l'expérience.
C'est pas le cas d'usage qui me fait le plus peur, par exemple.
Non, c'est pour ça que le côté dystopique de ce que tu évoquais m'interpelle un peu plus d'un point de vue anthropologique. Là, sur le paiement, à la rigueur, ça va plus vite, c'est plus facile, tant mieux. C'est toujours plus rassurant.
Alors, combien, c'est difficile à quantifier, mais combien de capitaux l'IA a-t-elle pris aux cryptos ? En tout cas, elle a attiré la lumière, mais certains acteurs dans les cryptos pourraient tirer parti plus que les autres de l'intelligence artificielle. Et ces acteurs des cryptos qui pourraient bénéficier à plein de l'IA, c'est les mineurs de Bitcoin. Alors ça, il faut nous expliquer pourquoi les mineurs vont profiter de l'IA.
Le nerf de la guerre, c'est l'énergie. Et donc, l'énergie est nécessaire pour miner du Bitcoin, et elle est d'autant plus nécessaire pour faire tourner tous les serveurs qu'on voit en fond derrière vous, Guillaume, pour faire derrière tous les calculs d'IA, parce qu'il y a une consommation énergétique qu'on reproche d'ailleurs beaucoup à Bitcoin et pas à l'IA, alors que c'est le même sujet. Et
puis, je dirais même que c'est fini. Si on compare ce que l'IA consomme en quelques années par rapport à ce que Bitcoin consomme en consolidé depuis sa création, il n'y a plus de sujet. Là, ce n'est plus un problème, Bitcoin. Là, ça ne dérange plus personne.
Mais on est un peu biaisé là-dessus. Et donc, le business model des mineurs de Bitcoin...
Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Sur l'IA, c'est hallucinant, la consommation électrique attendue. Oui. Enfin, on n'aura pas les moyens.
Mais là où c'est biaisé, c'est que pour les gens, Bitcoin, ils ne comprenaient pas. Alors que l'IA, c'est très clair. C'est légitime, presque. Quand on comprend Bitcoin et sa proposition de valeur, pourquoi certains mineurs en profitent ? Parce qu'ils savent utiliser de l'énergie et fournir de la puissance de calcul. Et comme le disait Stanislas, c'est tout simplement un métier qui peut être bien plus rentable, qui est bien plus rentable aujourd'hui, de par la demande croissante, complètement dingue sur une courte période de temps, que de miner de la crypto-monnaie.
Et les deux sont complémentaires d'ailleurs. C'est-à-dire que l'IA, on a besoin de faire tourner les machines tout le temps, alors que Bitcoin est pilotable. C'est pour ça que les mineurs de Bitcoin qui sont sur Bitcoin, pas pour l'aspect idéologique, pour l'aspect, c'est une industrie qui s'est créée avec ses coûts fixes, ses coûts variables et le revenu qui peut être généré. Aujourd'hui, dans certaines configurations, c'est plus intéressant de faire de l'IA que du Bitcoin, d'où des mineurs qui se diversifient et font les deux business.
Les pros des cryptos, c'est votre tutoriel, l'actu crypto en 20 minutes, 20 grosses minutes. Et une grande nouvelle cette semaine, l'Europe n'a peut-être pas encore complètement perdu la guerre des stablecoins. En tout cas, elle est en train d'essayer de se rattraper. On voit les initiatives privées de plus en plus nombreuses. Celle d'Odo BHF, tiens, qui est une banque d'investissement qu'on connaît bien sur BFM Business, très active sur les marchés traditionnels. Bien, Odo BHF va à son tour lancer un stablecoin et un stablecoin euro. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que l'Europe se remet dans la course, Stanislas?
On peut l'espérer et je vois les initiatives bancaires du moment d'un bon œil. C'est-à-dire qu'on a un double discours un peu des pouvoirs publics qui est de dire qu'il faut combattre les stablecoins dollars.
Oui.
Ils choisissent plutôt l'euro numérique et dans le même temps, donc ils dissuadent un peu quelque part les acteurs bancaires de se lancer dans les stablecoins et pourtant les acteurs bancaires le font. Donc on a évidemment Odo, c'est une belle nouvelle, historiquement Forge, le consortium européen de 9 banques qui a été évoqué et vendredi dernier un communiqué de presse avec des BNP, des Santander qui discutent avec des banques américaines pour voir. Ce matin même au Japon, les 3 plus grosses banques qui regardent pour faire un stablecoin. Donc le sujet aujourd'hui, il est éminemment bancaire. Évidemment que des pouvoirs publics ou même des banquiers centraux voient des stablecoins faits par des entités européennes d'un bon œil. Si l'euro a été conçu pour concurrencer le dollar, dans ce cas-là, il faut favoriser des stablecoins euros pour concurrencer les stablecoins dollars sur ces nouvelles infrastructures de valeur qu'on évoque à chaque fois, les blockchains. Donc, il y a une forme de principe de réalité de François Villeroy de Galhau, du gouverneur, qui dit
oui,
il y a les banques sont là, donc maintenant peut-être qu'il faut changer un peu de fusil d'épaule et accompagner.
Et François Villeroy-Gallo, gouverneur de la Banque de France, une des voix qui compte au sein de la Banque Centrale Européenne, il a l'oreille de Christine Lagarde, en plus il est français, il parle la même langue. Il se trouve qu'il plaide justement pour que les acteurs privés s'emparent des stablecoins et créent des fabriques des stablecoins euros. C'est intéressant de la part d'un membre de la BCE.
En l'occurrence, s'il a l'oreille de Christine Lagarde, elle ne l'a pas entendu comme ça, parce que c'est une annonce qui date de ce matin qui dit qu'il n'y aura pas de bitcoin dans les réserves européennes. Et la seule certitude qu'on ait, ou en tout cas, c'est un non-sens.
Bah, c'est autre chose, Bitcoin.
Ça va se développer, ouais. Ça va avancer jusqu'au moment où on changera d'avis, mais ce sera peut-être plus le même mandat et ce sera peut-être plus les mêmes personnes. Mais en attendant, même si Bitcoin, c'est différent, c'est le même sous-jacent, c'est le même socle. Aller dans une direction, c'est considérer la valeur de la technologie. Et aujourd'hui, comme le monde évolue, ne pas considérer Bitcoin, ne serait-ce qu'à l'avenir, et se positionner dès maintenant en disant qu'il n'y en aura pas, bien que ce soit un sujet un petit peu différent du Bitcoin, c'est quand même quelque chose d'important. Mais oui, on commence à avoir des personnes au sein des banques de manière générale, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, ou que ce soit banque centrale, qui commencent à se poser les bonnes questions, parce que ce sont les usages, ça vient d'en bas, le changement se fait dans l'usage.
Le verre rentre dans le fruit peu à peu.
Le discours est intéressant, parce que les minutes ont été publiées, enfin du moins le verbatim du discours, et ce qu'on voit, c'est qu'il ne fait plus cette opposition factice euro numérique de détail et stablecoin euro, et qui, en reprenant un petit pas de recul, la monnaie aujourd'hui, c'est un partenariat public-privé. Et donc finalement, sur les stablecoins euros, c'est pareil, c'est un partenariat public-privé. Après, on comprend bien qu'en creux, le gouverneur préfère des émetteurs qui soient souverains et européens. Ce qui n'empêche pas des acteurs américains ou que sais-je de venir aussi
respecter. Oui, oui. Parce que pendant ce temps, ils avancent aussi, les Américains. Citi, cette semaine, a annoncé qu'ils allaient créer un service de garde de crypto. Enfin, à l'avenir, les banques américaines, elles se distingueront plus sur les cryptos. Elles vont tout en proposer. Enfin,
c'est... Oui, et pas que. En réalité, quand on fait de la conservation d'un stablecoin ou d'un bitcoin, c'est les mêmes actifs technologiques pour faire la conservation des fameux actifs tokenisés. Oui. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un discours de dire nous, on va faire de la conservation. Et peu ou prou, derrière, ils peuvent faire la conservation de tout ce qui va circuler sur blockchain.
Voilà.
Et ils devront le supporter à un moment ou à un autre, parce que si ce ne sont pas des actions, ce seront des stablecoins. Si ce ne sont pas des stablecoins, ce sont des titres immobiliers tokenisés. C'est un nouveau support. C'est une nouvelle façon d'adresser les titres, de manière générale, quelle que soit leur forme, Forex inclus. Donc, ils se doivent d'accepter cette transition, et quitte à se mettre à jour et à modifier son moteur même pour être capable d'accepter un type d'actif, pourquoi ne pas considérer le champ des possibles et surtout considérer les besoins qui, encore une fois, viendront des clients et du plus bas niveau.
De répondre à une demande client, est-ce que je peux envoyer du cash à l'autre bout du monde le vendredi à 19h30? Aujourd'hui, non, cette technologie le permet. C'est pour ça que nous, quand on parle, on a souvent un prisme un peu technique, on jargonne, on utilise trop d'anglicisme, mais la promesse...
C'est les usages derrière.
La promesse, c'est l'usage pour une entreprise ou même un particulier, envoyer de l'argent à la diaspora, c'est de le faire sans frais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce, rapidement.
Bon, on a une question de l'auditeur, mais qu'on traitera, que je vous propose de traiter seulement la semaine prochaine, parce que je pense qu'il nous faudra un peu plus que deux minutes. Il nous reste deux minutes. La question, c'est la bataille. Il déterre la hache de guerre entre Bitcoin et Ethereum. Laquelle a le plus de potentiel? Très bonne question, Marlo. Mais non, on lui répondra une autre fois. Ou vous reviendrez la semaine prochaine, pas sûr, Owen? Bon, ou vous
êtes qui?
Bon, peut-être, rassure.
En tout cas, merci. Il faudra plus de deux minutes pour comparer un incomparable, ça, c'est sûr.
Allez. Il a commencé à rêver. Incomparable. Le Bitcoin est bien au-dessus, c'est ça?
C'est totalement différent. C'est pas les mêmes propositions de valeur. C'est, pour moi, c'est, on comparerait pas à l'argent de la même façon.
Époque, on comparait à une époque. On se disait, sur la décentralisation, peut-être qu'Ethereum aussi peut montrer une ambition de décentralisation importante comme Bitcoin. Et finalement, on se dit, non, il n'y a plus match et c'est plus une question parce que là-dessus, Ethereum a perdu. Ils ont perdu.
Peut-être que sur la sécurité et la décentralisation, oui, mais ce n'est pas l'enjeu que vient défendre Ether. C'est plutôt de l'utilité. Mais c'est l'usage. Typiquement, si je vous demande, vous préférez un kilo d'argent ou un kilo d'or, vous allez me dire un kilo d'or. Si vous devez aller vous battre et que je vous demande, vous voulez une épée en or ou une épée en argent, et encore, l'argent serait peut-être pas la bonne réponse, mais c'est vraiment une question d'usage, d'objectif, d'utilité, et pour moi, elles n'ont pas les mêmes propositions de valeur, c'est surtout ça la réponse.
Oui. Si on vous propose des terres rares au dîner, vous direz non, en revanche, pour votre téléphone et votre vie sociale, vous en avez besoin des terres rares. Voilà.
J'aurais plus fait la comparaison entre un kilo d'or et un litre de pétrole, parce que l'éther, c'est vraiment ce qui fait tourner une machine. Et c'est pour ça que même en termes de dynamique de prix à moyen long terme, est-ce qu'on a intérêt dans une économie mondiale d'avoir un pétrole qui est trop élevé? Non. Donc on voit que c'est pas la même dynamique de prix entre l'or qui en ce moment progresse et le pétrole, chaque fois en fonction des variations de prix, a des conséquences très concrètes sur nos vies.
Alors messieurs, bravo, parce qu'en 1 minute 20, vous aurez répondu à cette question de Marlon. Cette promesse aussi, chaque semaine, des pros des cryptos, de regarder dans les yeux également les points faibles et les bémols, parce que tout n'est pas parfait. D'abord, on le disait, cette semaine est plutôt compliquée sur le marché crypto. Et puis, il y a aussi la question des trésoreries d'entreprises. Bien sûr, beaucoup d'entreprises mettent des bitcoins, des cryptos en trésorerie, mais il y a comme une forme de retour de flamme, là, désormais, Owen, pour ces entreprises-là.
Pour certaines, en tout cas. Il y a, en effet, un passage où on sent que ça s'essouffle, on sent que... En fait, qu'est-ce qui était intéressant pour les Bitcoin Treasury Company ? C'est qu'une entreprise qui achetait 1 million d'euros de crypto-monnaie, par exemple, arrivait à voir sa valorisation augmenter de 5, 10, 20 millions d'euros parce que des investisseurs externes se ruaient sur son capital. Aujourd'hui, quand on rajoute 1 million d'euros de crypto-monnaie à son capital, il peut y avoir une légère valorisation, mais elle est beaucoup plus tangible. Le premium accepté par les investisseurs, qui est beaucoup moins dans la précipitation et qui se pose beaucoup plus de questions en se disant « Est-ce que acheter 1 million d'euros de Bitcoin, ça augmente réellement de 10 millions la valeur d'une entreprise ?» Et la réponse est ça dépend de ce qu'elle va en faire, mais probablement pas à l'instant T. Et donc, il y a des retours à la normale, il y a un retour de flamme, il y a certaines entreprises qui essayent de se lancer et qui n'arrivent pas à avoir beaucoup plus de valeur que l'argent qu'elles lèvent pour acheter l'actif, ce qui semble plutôt cohérent.
J'ajoute que plusieurs ont la même ambition. Et donc, de fait, quand on parle d'un premium, d'une différence entre la valorisation de l'entreprise et son stock, si toutes sont sur le même créneau, ce premium disparaît. Donc, il n'y a que celles qui se sont lancées le plus tôt, qui ont le plus de taille critique. Pour utiliser au mieux les crédits, les obligations convertibles, etc., pour faire un stock qui vont s'en sortir.
L'offre et la demande.
Oui, là, ce sera intéressant de voir. On est à 105 000 dollars sur Bitcoin, s'il y a des rachats massifs ou si on attend un peu. C'est un des enjeux. C'est plus facile sans gouvernement ou avec, quand on est président de la DAN, pour évangéliser et surtout essayer de faire monter le débat crypto à un an et demi, même pas un an et demi de la présidentielle. C'est mieux avec ou sans gouvernement ?
C'est très simple de répondre à cette question. Quand on a un gouvernement démissionnaire et qu'on va parler à des ministres ou aux cabinets qui sont derrière, malheureusement, et c'est comme ça que ça fonctionne, étant démissionnaires, ils ne peuvent pas prendre part à des sujets qui soient autres que les affaires courantes. Oui. Donc on l'a vu pour nos sujets. Quand on parle de stablecoin, même de la vente de Exaion éventuellement racheté par un acteur comme Mara, on se retrouve un peu bloqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'interlocuteur. Donc oui, je le déplore.
Merci messieurs. Les pros des cryptos, chaque vendredi, retrouvez aussi en replay, podcast tout au long du week-end. Owen Simonin, à tête de Meria, combien d'abonnés Owen ?
On va vers les 790 000 là.
Oh, objectif là. Lune, donc sa chaîne YouTube Hacher avec un H au début, la pédagogie crypto et la DAN bien sûr qui tente d'évangéliser. C'est un peu plus B2B, enfin c'est vous aussi, hein, mais vous êtes que B2B la DAN. Vous parlez aux entreprises.
Que des inscrits à la DAN avec nos différentes entreprises.
C'est formidable. Voilà, un écosystème soudé. Stanislas Barthélémy, on est le président. Bon week-end à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.